On va attaquer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, je vais passer la parole à Daniel Sereni. Vous savez, le vif du sujet, ça commence toujours dans nos colloques par un petit remake de l'an dernier. Et on a choisi comme thème les MOOC. Et c'est Daniel qui va vous le présenter.
Merci beaucoup, Marie-Hélène. Donc, effectivement, comme... La HAS a prévu deux parties essentielles sur un programme qui associe acquisition de connaissances et évaluation des pratiques. Première partie, acquisition de connaissances. Et dans la façon d'acquérir des connaissances, il y a effectivement deux manières. Comme ça nous a d'ailleurs été dit hier par M. Destrebecq, c'est la même chose au niveau européen. Il y a la manière collective, c'est-à-dire finalement assister à ou participer à une session de type congrès ou formation collective, et la façon individuelle d'acquérir des connaissances. Et la façon individuelle d'acquérir des connaissances, en gros, c'est deux choses qui sont très universitaires. En tout cas, pour l'une totalement universitaire, ce sont les diplômes d'université et les différentes formations diplômantes. Et l'autre, c'est la formation à distance, qui se développe de plus en plus dans les universités. L'année dernière, le colloque de DPC Santé Université était consacré au e-learning, et nous avons beaucoup évoqué cette question, bien sûr. Et dans ce cadre, nous avions introduit une notion qui, pour certains d'entre nous, dont je suis, était assez nouvelle, qui était les Massive Open Online Courses, les MOOC. Et c'était déjà une révélation pour un certain nombre d'entre nous de quelque chose qui existait, qui se faisait, qui pouvait avoir même un impact important dans certains endroits du monde et qui se développait en Europe et en particulier en France. Et donc, un an après, nous voulons faire le point. Et nous avons pour cela deux intervenants qui vont venir nous parler des MOOC sous deux aspects. Le premier aspect, c'est celui, au fond, de l'organisateur, c'est-à-dire ceux qui conçoivent le cours et qui le mettent en place. Et puis le deuxième aspect, c'est celui du pédagogue, de l'universitaire, qui assure son contenu, qui s'occupe des objectifs pédagogiques et de leur évaluation. Donc, dans l'ordre, je vais d'abord demander à Monsieur Christophe Battier, qui est directeur technique du service TICE, il nous dira ce que ça veut dire TICE, de l'Université de Lyon 1, et ensuite au professeur Antoine Flahaut, professeur de santé publique et ancien directeur de l'HESP, de nous parler du rôle de l'enseignant dans les MOOC. Donc, je donne la parole à Christophe Battier.
Bonjour, je me présente. Donc, Christophe Battier, je travaille au service ICAP, qui est le service TIS. Alors, TIS, c'était technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Et le service ICAP, ça veut dire innovation, conception, assistance à la pédagogie. C'est une équipe de 35 personnes aujourd'hui qui est là pour aider les enseignants de notre université, utiliser tout ce qui est nouvelles technologies, nouvelles façons d'enseigner à l'université. Pour faire simple, on a trois métiers dans ce service. Le premier, on construit un système qui s'appelle Spiral aujourd'hui, qui s'appellera Caroline Connect. On a fusionné avec d'autres projets en 2015, pour 2015. Des systèmes, ce qu'on appelle des LMS, qui permettent de diffuser les activités et les contenus en ligne. Aujourd'hui, sur la plateforme, c'est 20 000 étudiants par jour, c'est plus de 800 000 fichiers, c'est plus de 20 000 questionnaires, pour vous donner une idée, sur l'Université de Lyon. Et on propose cette plateforme à d'autres institutions, comme les IFSI, les pompiers, les sapeurs-pompiers, etc., les sportifs, etc. On a plus de 300 000 utilisateurs sur cette plateforme. Dans sa première métier. Deuxième métier, on crée des contenus pour les enseignants. On aide les enseignants à créer des contenus sur des animations, des simulations. On a en 3D, il y a 4 personnes aujourd'hui qui créent des choses. Par exemple, si vous allez sur YouTube, vous connaissez YouTube, qui diffuse la vidéo sur Internet, vous tapez « Anatomie 3D Lyon ». Et on a une centaine de vidéos, c'est les cours d'initiation à l'anatomie pour les paramédicaux, pour les sportifs. Il y a quelques facs de médecine qui utilisent à l'étranger. On a fait plus d'un million de vues en moins d'un an sur cette chaîne, donc on l'a traduite en plusieurs langues, il y a 5 langues. Voilà, des choses en 3D, de la simulation, des serious games. Et troisième métier, on a des conseillers pédagogiques qui aident les profs à utiliser tout ce bazar, parce que c'est quand même pas évident de se lancer là-dedans. Il y a quand même plusieurs étapes de transposition. On fait la même chose avec les technologies que ce qu'on fait en avant. Et après, on peut évoluer vers des enseignements différents. Et dans ces types d'enseignements différents, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait au niveau des MOOC pour aider nos enseignants à l'université pour que leurs amphis ne deviennent pas comme celui-là. C'est une photo qui a été prise à Détroit sur l'évolution des écoles. Et pour aider ces enseignants, on a mis en place plusieurs cycles de formation à l'université. On propose des cycles courts d'une heure, initiation à Twitter, découverte de YouTube, découverte des outils, mais aussi découverte de concepts. On a fait des concepts sur la classe inversée, où il y avait 80 personnes qui sont venues. C'est quoi une classe inversée, comment on l'a mis en œuvre, des exemples, des choses comme ça. Donc on a des sessions courtes, des sessions plus longues, comme celle-ci, qui fait 200 heures sur une année. C'est un DU qui se fait entièrement en ligne. On fait l'enseignement en ligne pour apprendre à faire l'enseignement en ligne. Et c'est pour ça qu'on appelle ça e-learn au carré. Donc c'est 200 heures en ligne pour nos enseignants. On a à peu près une dizaine d'enseignants par an qui suivent ce DU. On va ouvrir la quatrième session là en octobre. On est parti là-dessus. Et c'est un enseignement qui se fait tutoré, avec un noyau de gens qui sont inscrits. On voit une fois au début, une fois à la fin. Et on a ouvert cet enseignement en MOOC cette année, en octobre, pour voir ce que pouvait apporter la communauté à cet enseignement-là. Là-dessus, on s'est appuyé sur l'outil qu'on est en train de préparer pour notre université en 2015. On a fusionné plusieurs projets qui existaient dans le monde francophone. Je ne sais pas si vous connaissez ClarLine, la plateforme ClarLine. Donc on a fusionné avec des équipes belges, avec des équipes de plusieurs universités sur Rhône-Alpes. Et on travaille sur une nouvelle plateforme dans laquelle on va mettre des fonctionnalités. On a mis des fonctionnalités de MOOC, donc on a commencé à travailler nos MOOC sur cette nouvelle plateforme. Et on a fait aussi au sein de l'université une réflexion, un groupe de travail à l'université, pour savoir comment on allait caler les MOOC par rapport aux structures existantes dans les universités. Est-ce qu'un prof va être payé pour faire des heures de MOOC? Comment il va être payé? Comment ça va être reconnu? Sous quelle forme? À quel taux? Etc. etc. Si c'est de la formation initiale ou de la formation continue. Et si vous avez vu les MOOC l'année dernière, vous voyez qu'on peut partager ces différents publics. Et donc, on mélange tout ça. Et donc, c'est une structure nouvelle pour notre administration universitaire. C'est pas toujours simple à gérer. Et comment on peut caler cette nouvelle façon de faire des cours par rapport à notre université? À quel public elle s'adresse? Quel coût ça va être, et quel bénéfice on peut en avoir. Est-ce qu'on fait que de la com ou est-ce que c'est vraiment un outil de pédagogique, etc., etc. Donc il y a tout un travail à faire en interne. Donc là, je reprends le cycle des formations qu'on propose à nos enseignants. Donc chaque mois, ils ont plusieurs cours, des longs, plusieurs formations, des courtes, des longues. Ils peuvent choisir. À titre indicatif, on ne fait pas uniquement dans le numérique. Par exemple, celle-là, c'est une formation, on en fait toujours le plein. C'est comment parler dans un amphithéâtre. Comment respirer dans un amphithéâtre? Comment ne pas s'épuiser et parler à ses étudiants, attirer l'attention? Donc ça, il y a toujours pas mal de monde qui suit cette formation. Mais aussi des technologies et aux outils. Donc on avait fait un groupe de travail en novembre avec nos enseignants à l'université sur, pour vous, c'est quoi un MOOC? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous allez transposer votre enseignement? Quelles sont vos envies? Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos craintes? Donc on a fait un SWOT autour de ça, pour poser des questions à nos enseignants, nos groupes d'enseignants, un peu quelles sont leurs conceptions par rapport à ça. Donc on a fait ça sur une séance d'une heure. Donc on a brainstormé en groupe. Alors vous irez voir la présentation, je ne sais pas si c'est accessible sur le site web, mais elle est sur SlideShare. SlideShare, c'est comme YouTube, mais pour le PowerPoint. SlideShare, c'est le partage de slideshare.net/Battier, c'est mon nom, vous trouvez ça. Et donc, vous aurez tous les détails des contenus. L'idée des enseignants, c'est... effectivement, ça peut être un nouveau public, effectivement, c'est une nouvelle façon d'enseigner. Mais chez nous, il y a eu un consensus assez large, disant on va essayer de faire caler la formation initiale, ce qu'on fait en formation initiale, et le MOOC, l'ouverture qu'on va en avoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. La menace, c'est nos étudiants peuvent aller voir des cours à l'extérieur. Nos étudiants peuvent aller chercher des informations en dehors de notre université. Pour la petite histoire... c'est la première fois que je vois un enseignant, un jour, il n'y a pas très longtemps, hein, c'était en octobre l'année dernière, qui est venu me voir en disant « Oh là là, j'ai appris quelque chose dans un MOOC, j'ai appris en ligne. » J'ai dit « Oui, mais ce n'est pas la première fois que ça t'arrive, c'est la première fois qu'il le formalisait. » Si, si, pour lui, ça paraissait impossible d'apprendre en ligne sans avoir un prof devant lui. Et donc essayez, je ne sais pas si vous êtes inscrit à des MOOC, je sais que ça prend du temps, je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'on a tous des emplois du temps surchargés. Mais ça vous donne un rythme, ça vous impose, vous allez vous imposer une méthode de travail, etc., etc. C'est une expérience à vivre, vous pouvez le faire assez facilement. Et donc, on a détaillé tous les points qu'il fallait mettre de point de vue enseignant et des services que les enseignants attendaient de la part de l'université pour mettre en place un MOOC. Alors, comment on peut se lancer avec ça? Donc, nous, on fait ça sous forme de brainstorming avec nos équipes. L'idée, c'est quels sont les contenus à numériser, même s'il y a beaucoup de choses numérisées, il y a encore quelque chose à numériser à propos, enfin, de moins en moins. Surtout, ce qu'il y a, un gros travail à faire, c'est quel volume d'informations je vais diffuser, à qui je vais diffuser, comment je vais le diffuser, en sachant que le niveau des gens qu'on va avoir, c'est des gens qui sont intéressés par le MOOC que vous avez proposé. On travaille, par exemple, un des premiers MOOC en médecine, c'est sur l'imagerie médicale. Donc, on peut avoir aussi bien des petits jeunes en CP qui travaillent, je caricature un peu, qui travaillent sur un exposé, sur un scanner, sur quelqu'un qui a la retraite, qui va passer un IRM, qui est intéressé par l'imagerie médicale. Et donc, c'est à ce type de public-là qu'on va s'adresser, très large. Et en même temps, on peut s'adresser à des gens qui cherchent une spécialisation, qui cherchent... est-ce qu'on fait quelque chose de spécialisé? Est-ce qu'on fait quelque chose de grand public? Quel volume d'informations qu'on va donner? Donc, il y a une vraie réflexion à faire, jusqu'où on va, à faire avec les enseignants. Et une chose qui est compliquée pour les enseignants, c'est quelle interaction je vais mettre en place avec la communauté. Un MOOC, c'est quelque chose qui est ouvert, a priori, par définition, sinon c'est pas un MOOC. Et vous allez avoir une communauté qui va arriver, hein, aussi bien du CP que la personne à la retraite. Cette communauté, ça peut être 100 fous furieux, ça peut être 10 000 personnes. Vous savez pas, a priori, le nombre de personnes qui va arriver, ce qui va arriver. Et les enseignants ont beaucoup de mal à imaginer ce que la communauté va pouvoir apporter à la formation. Les types d'interactions qu'on va pouvoir faire. Comment on va pouvoir scénariser les interactions pour en faire profiter l'ensemble des participants? C'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément tous vécu. Les auteurs d'enseignement n'ont pas forcément vécu ça. Les mécanismes de ce qui se passe dans les réseaux ne sont pas faciles à appréhender quand on n'a pas été dans un réseau social ou dans une grosse communauté. On sait gérer les amphithéâtres jusqu'à 3 à 4 000 étudiants. Au-delà de ça, c'est compliqué pour les enseignants d'envisager comment on peut dynamiser ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de MOOC. Je sais pas, on a dû vous le présenter l'année dernière. Des choses assez transmissives, où on met des contenus, on vient les voir comme au cinéma. Des cours, il y a très peu d'interactions. Et l'autre type de MOOC, c'est les MOOC connectivistes, où là, justement, on s'appuie sur la communauté. On fait que l'idée, c'est s'appuyer sur la communauté pour que l'enseignant ait le moins de tutorat possible à faire. C'est pas lui à répondre aux questions, comment se connecter, comment trouver des trucs. C'est la communauté qui va apporter ça. Et donc, il y a un mécanisme à démarrer, à lancer et à gérer. Donc ça, il y a pas mal de travail à faire là-dessus. Quelle est la place de l'enseignant dans son MOOC? Est-ce que c'est un mentor? Est-ce que c'est un tuteur? Est-ce qu'il doit être toujours présent? Est-ce qu'il doit être juste l'animateur? Quelle est sa place? Et là, vous allez retrouver un peu la personnalité des gens. Tous les enseignants n'ont pas la même personnalité. Tous les enseignants n'ont pas le même comportement en amphithéâtre. Donc, on va retrouver ça, ou le même niveau d'implication. On va retrouver ça aussi dans les MOOC, dans les stratégies de comment on va diffuser son cours. Donc ça, on travaille aussi avec les enseignants par rapport à ça. Une chose aussi qui est intéressante pour les MOOC, vous pouvez badger, entre guillemets, vos étudiants. C'est-à-dire, il a telle compétence, à tel niveau. Vous pouvez donner un badge. Pour faire vite et simple, ce badge, il peut le prendre, le mettre sur son réseau social, type LinkedIn, Facebook, Viadeo, Google+, et quand vous allez cliquer sur le badge, vous allez avoir la liste des compétences qu'il a acquises. Avec quelles compétences il a acquis ce badge? Et qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce badge? Après, est-ce qu'on le vend ou on le vend pas? Est-ce que c'est gratuit, c'est pas gratuit? Ça, c'est chaque université, chaque institution, chaque enseignant qui a sa stratégie par rapport à ça. Mais l'idée, c'est de plus en plus, alors que ce soit en médecine ou ailleurs, on va aller chercher des compétences pointues, spécifiques, au moment où on en aura besoin. On ne va plus chercher un diplôme, c'est trop long à avoir. On va chercher des petites choses comme ça. Et donc, on aura, comme ces fidèles généraux de Corée du Nord, tout un tas de badges à afficher en disant « je suis compétent dans tel et tel domaine ». Donc, il y a aussi un gros travail de temps de travail en ligne. C'est pas évident à estimer le travail le contenu qu'on va proposer, les activités qu'on va proposer, va faire du temps de travail en ligne pour les participants. Évaluer le temps de tutorat. Donc il y a aussi cette évaluation-là. Quel est le niveau d'implication que je vais avoir? L'hétérogénéité du public. Ça, c'est là, on est sur la prospective, hein, parce que pour l'instant, nous, on a ouvert que deux MOOC. On a fait deux MOOC uniquement sur l'université, pas sur des choses en médecine. Donc on ne sait pas encore exactement le public qu'on va avoir, même si on a des idées par rapport à des expériences dans d'autres universités, ou par exemple, je vous parlais de YouTube sur l'anatomie 3D, on a pas mal de qualifications des publics, le nombre par jour, etc. etc. ça donne des idées. Trouver des partenaires. Alors ça se fait presque naturellement. Tous les projets de MOOC, on en a une vingtaine sur lesquels on bosse en ce moment. On n'a quasiment pas un prof tout seul qui veut ouvrir un MOOC. C'est un prof qui a dit, ben, moi je vais travailler avec l'université de Clermont-Ferrand, moi j'ai travaillé avec le groupement scientifique machin, les odontos, c'est peut-être plus simple chez eux, c'est une petite communauté, je crois qu'il n'y a que 12 facultés en France, ils se sont mis tous ensemble pour faire un MOOC sur la dent, l'histoire, enfin bon bref, quelque chose de base sur la dent, ou des gens qui trouvent des partenaires extérieurs. Par exemple, un MOOC sur comment faire son premier robot. C'est des profs d'algorithmie chez nous à l'université qui se sont mis avec des industriels à Lyon. C'est l'industrie du robot, se développe pas mal. Donc, ils se sont associés. Donc, c'est des partenaires universitaires et industriels qui se sont mis ensemble pour générer un premier MOOC. Et après, l'idée, c'est de passer à la mise en œuvre. Donc, ça, c'est pas toujours évident. Donc il y a un chantier à construire. Et ça, pareil, on se donne le temps avec les enseignants. On fait la meilleure méthode, on essaye de donner un peu de temps. Les MOOC qu'on va ouvrir en octobre 2014, on les a entamés depuis octobre 2013. Nos enseignants, enfin, ça donne un peu comme vous, comme tous les enseignants à l'université, c'est une demi-journée par mois de disponible pour travailler là-dessus. Et on se donne une vingtaine d'heures donc pour construire un MOOC en moyenne de 8 semaines avec 2 heures d'activité en ligne. Donc 20 heures de travail pour le prof en collaboration avec nous, il en fait en plus chez lui, mais 20 heures par projet pour faire 8 heures, c'est à peu près le créneau sur lequel on est actuellement. Et donc on travaille sur une nouvelle plateforme qui est la fusion de Spiral et Clearline avec des fonctionnalités de MOOC. Et donc on a mis en place, on scénarise toutes les séances avec les enseignants. Donc là, on est en train de remplir vraiment faire les schémas, les scénarisations, tout ce travail autour de la communauté, donner vraiment de temps au début de la séance pour que nous, on s'appuie beaucoup sur la communauté, parce qu'on a des expériences où la communauté apporte beaucoup. Donc on a pu qualifier cet apport, on a pu le montrer aux profs, montrer l'intérêt. Et donc, il y a des mécanismes à mettre en place au début des MOOC pour que la mayonnaise monte, on va dire, puisqu'on est lyonnais, on va parler de cuisine, et mettre en place tous ces contenus et tout scénariser. Ça se fait une fois qu'on a compris, on a fait ce travail-là. On fait ces 4 heures de travail avec le prof approprié pour caler ça par projet. Des fois, ça va un peu plus vite, mais en moyenne, c'est ça sur les 20 projets sur lesquels on bosse. Et une fois qu'on a fait ça, ensuite on remplit des cases et puis on travaille sur le contenu. Il y a un autre problème aussi, c'est sur les MOOC. Il y a 2 ans, il y en avait une centaine. Maintenant, il y a plusieurs milliers qui existent. C'est comment faire connaître son MOOC, comment donner de la visibilité à son MOOC. Il y a déjà plusieurs plateformes qui existent, qui proposent ça de plus en plus. Donc, il faut les faire référencer, et puis travailler sur différents vecteurs et travailler sur la communauté. Alors, vers où on va, on a un corps un peu brumeux, c'est pour ça ce petit paysage. On ne sait pas exactement où on va, même si on voyait le sentier est un peu tracé, on a des idées de là où on peut aller. Donc, il y a encore beaucoup de choses à affiner, il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Mais là, on travaille avec les enseignants qui sont vraiment enthousiastes. Et la piste qu'on a retenue à l'université, c'est pour financer les MOOC, c'est on a retenu, nous, les 20 projets qui ont été retenus, c'est parce que les contenus seront aussi utilisés en formation initiale. Donc, les profs sont payés comme s'ils faisaient leur formation classique, sauf qu'ils vont s'appuyer sur des MOOC pour faire des classes inversées dans leur... Les contenus des MOOC serviront de classes inversées en présentiel. Et la communauté qui s'inscrira en ligne fera l'animation en ligne du cours. Ça, c'est le scénario sur lequel nous, qu'on a retenu à l'université pour caler à peu près avec les structures existantes. Et autre chose qu'on a fait, c'est on a décidé à Lyon 1 de donner des badges gratuitement. Par contre, si quelqu'un veut un certificat, donc un certificat, c'est de participation ou un diplôme à la fin de son MOOC, il faut que le MOOC ait été déclaré comme DU à l'université. À ce moment-là, on rentre dans le financement en formation continue et il s'inscrit comme on le fait à un DU classique, sauf qu'il se fasse en ligne. Donc on a essayé de faire du bricolage avec ce qui existait et on a recadré ça. Une dernière chose à dire là-dessus, le seul retour d'expérience que j'ai à Lyon, il n'est pas chez nous, sur des budgets, sur des choses qui existent, c'est le MOOC Effectuation, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été ouvert par la deuxième édition par l'école de management de Lyon. Ils ont vendu, il y a eu 10 000 participants, 7 000 à la deuxième édition, ils ont vendu 300 certificats à 350€ sur la deuxième édition, pour vous donner une idée, sur un MOOC qui a duré 6 semaines. On ferait vite le calcul. Je vous ai mis tout un tas de liens pour compléter ce que je viens vous proposer de présenter autour de ça, et puis vous pouvez retrouver donc cette présentation sur le Slideshare, et puis voilà.
J'arrête. Merci, merci beaucoup. On peut applaudir Monsieur Battier. Je pense qu'il serait plus logique de donner la parole maintenant à Monsieur Antoine, au professeur Antoine Flahaut, pour qu'il pourra nous apporter sa vision en tant qu'enseignant, organisateur, de réalisateur de MOOC, et qu'on pourra poser des questions ensuite qui pourront se répartir entre les deux orateurs en fonction de leur sujet.
Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir donné la possibilité de vous parler, en effet, de ce retour d'expérience que l'on a pu avoir avec le centre Virchow-Viermé de santé publique Paris-Berlin en termes de MOOC. Alors, ce centre, c'est une initiative européenne qui date des célébrations d'anniversaire du traité de l'Elysée entre De Gaulle et Adenauer, et qui était l'idée était de renforcer dans les années à venir l'axe universitaire de santé publique entre l'Allemagne et la France, et on a choisi dans les trois axes l'un des axes, c'est les MOOC. Les MOOC, comme on l'a vu l'an dernier, ça a été le thème de ces journées, c'est MOOC mania, une MOOC hystéria. Il y a eu beaucoup de papiers dans le monde, pas simplement en France, sur ces fameux MOOC. Et au jour d'aujourd'hui, le paysage change un peu, mais jusqu'à présent, en fait, et une des raisons de ces initiatives, notamment françaises, c'est de voir que stratégiquement, le paysage des MOOC, c'était essentiellement quatre plateformes, dont deux très grosses, Coursera et EDX. Coursera, c'est celle-ci, elle est à Stanford, EDX. Alors, comme l'a dit Christophe Battier, c'est des énormes flux, y compris de vidéos, de YouTube et autres, qui transitent dans ces enseignements. Ce n'est pas de l'enseignement à distance classique, à la grande différence des DU en ligne. Vous avez même quelques centaines de personnes. Ça, c'est assez gérable sur les plateformes universitaires classiques. Dès qu'on arrive dans des chiffres qui sont des dizaines de milliers de participants, voire des centaines de milliers, il faut vraiment des ordinateurs très puissants, des flux très puissants, puis aussi des développements très puissants. Alors, ce n'est pas pour rien que Coursera s'est développé à Stanford, à côté de la Silicon Valley, que EDX, c'est un consortium entre le MIT et Harvard, c'est-à-dire des plateformes avec une très, très forte innovation technologique. Et l'idée était de se dire que si c'était l'avenir de l'université dans un certain sens, la menace, vous parliez des menaces et des opportunités, la menace qui était claire, c'était que on ne laisse pas quand même l'ensemble de ces développements aux États-Unis, avec toute la qualité du modèle américain d'enseignement. Il fallait que l'Europe réagisse. Et l'initiative qui était menée avec l'INRIA, qui est un peu notre Silicon Valley en France, c'est l'Institut de recherche en informatique, en mathématiques, a donné cette plateforme gouvernementale qui s'appelle France Université Numérique, FUN, qui essaye d'être une sorte de vraie réaction du gouvernement français pour développer et déployer en Europe une plateforme qui puisse concurrencer les très grandes plateformes nord-américaines. Alors, MOOC, rapidement, ça veut dire massif, c'est-à-dire un très très grand nombre de participants. La plateforme Coursera en affiche plus de 4 millions aujourd'hui, et en moins de 4 mois, on va dire, la plateforme FUN a déjà plus de 300 000 participants, ce qui, en termes de francophonie, car la plateforme est francophone, était une gageure qui n'était pas si évidente à relever. Alors, La notion de open, on a dit open, ça veut dire gratuit. Oui, c'est vrai que les significations d'open signifient aussi, on le sait, ouvert en permanence. Si vous voulez vous adresser à des gens qui sont en Polynésie ou à La Réunion, vous avez besoin d'être ouvert en permanence. Ouvert aussi au sens de l'open data, c'est-à-dire qu'en principe, vous devriez pouvoir avoir accès au PowerPoint, aux fichiers PDF, aux documents, et voire même aux références, ce qui n'est pas simple. Hein, les journaux ont des politiques éditoriales parfois très, très peu ouvertes. Open source, la plateforme EDX, par exemple, est une plateforme qui est complètement ouverte, y compris dans son code de programmation. Donc l'INRIA a pu récupérer des modules de la plateforme EDX, et il y a une communauté de développeurs informatiques qui sont derrière et qui développent. Et puis l'open access, c'est donc la gratuité. Alors, la gratuité, elle pose problème parce qu'il n'y a jamais de gratuité. On sait bien, il y a quelqu'un qui paye derrière. Surtout, ces plateformes sont extrêmement coûteuses et les flux générés sont coûteux. Les enseignements, comme l'a dit Christophe Battier, c'est des heures d'enseignement. Qui paye ? Bon. Alors, on a deux modèles, très clairement. Le modèle américain est un modèle qui n'est pas un modèle gratuit, comme vous savez, qui n'est pas un modèle financé par l'État et qui pose beaucoup de problèmes sur les MOOC qui sont... tous les problèmes qui sont derrière ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire le fait que les profils des étudiants, quand on dit les profils, c'est pas simplement leurs notes, mais c'est aussi tout leur comportement sur la plateforme. Vous parliez de l'animation, de la communauté. Est-ce qu'ils ont été des animateurs forts, participants au forum, ou est-ce qu'ils sont... Tout ça est transmis aujourd'hui, est vendu même, est revendu par la plateforme Coursera à des employeurs qui trouvent que pour le recrutement, c'est tellement difficile de recruter des collaborateurs, avoir un environnement sur ses comportements peut être extrêmement utile pour le recrutement, mais pose des problèmes assez importants en matière de confidentialité, d'anonymisation des données, etc. Le modèle européen, c'est pour ça aussi qu'on pensait qu'il était important de réagir, c'était que le modèle européen est un modèle quand même très différent, on le connaît bien, c'est voilà, un modèle qui a ses défauts, mais qui a aussi ses qualités de service public, le plus souvent gratuit ou à très faible coût, en tout cas dans l'Europe continentale. Et c'est autour de ce modèle que la plateforme FUN, notamment, et que la plateforme de Lyon s'est développée. En ligne, on voit bien ce que cela veut dire. En ligne peut aussi vouloir dire en amphithéâtre. On a vu en Afrique, par exemple, où les lignes et les débits Internet ne sont pas aussi bons partout sur certains territoires. On voit dans les universités, y compris au Mali, par exemple, où il était difficile ces derniers temps d'envoyer des profs, d'avoir les échanges qu'on avait jusqu'à présent entre le Nord et le Sud, où l'utilisation de recours à ce type de technologie a permis à des amphis entiers, à des classes, de pouvoir utiliser en ligne les cours. Donc c'est pas forcément seul derrière son intérêt. Et les cours, ben oui, les cours, c'est une offre de formation. Alors sur la plateforme FUN, nous, on a un espace réservé à la santé publique et qui est... la santé publique, c'est pas une discipline, hein, c'est plutôt une série de disciplines qui essayent de concourir à résoudre des problèmes de santé, donc de la démographie, de l'épidémiologie, de l'histoire de la santé aussi, de la statistique et des mathématiques, des fondamentaux de statistique. Les MOOC en statistique ont particulièrement une attractivité importante sur les plateformes. C'est ceux qui font le plein, je dirais, dans les différentes plateformes aujourd'hui. Les gens vont... chercher avec, même parfois sans demander de certificat, mais vont chercher des compétences dans des MOOC qui sont souvent très très bien faits par ailleurs. Le MOOC, ça ne veut pas dire à la demande. Une chose qu'on oublie parfois, c'est que l'enseignement n'est pas un gros tas dans lequel il dit « servez-vous ». Non, on essaye de stimuler une forme d'attente, d'appétit à venir assister. Comme l'a dit Christophe Battier, c'est assez exigeant parce qu'il faut s'inscrire. Ça a une énorme attractivité aujourd'hui, comme vous l'avez vu, mais malgré tout, il faut s'inscrire. Parfois, il faut attendre. C'est pas tout de suite. Ça va être en juillet, ça va être en octobre. Vous avez sur la plateforme Coursera des MOOC qui vont commencer qu'en janvier prochain. Donc, vous n'avez pas accès à ces MOOC. Alors, c'est pas parce qu'ils sont pas prêts. Hein. Ils sont tous prêts, comme l'a dit Christophe Battier. C'est un an à l'avance qu'on les prépare. Donc, c'est pas qu'ils ne sont pas prêts. Parfois même, le cinéma n'est pas permanent. Ils sont reprogrammés. C'est pour essayer de concentrer les personnes au même moment et que après, on puisse bénéficier de cet effet communauté autour du MOOC. Car l'intérêt du MOOC essentiel n'est pas tellement de donner des cours en ligne, de dispenser de la connaissance en ligne. En effet, ça, c'est disponible pratiquement à la demande. L'intérêt est de susciter une sorte de réseau social autour du cours qui va interagir et qui va être extrêmement intéressant. Moi, j'ai personnellement fait un MOOC en épidémiologie sur le chikungunya, et on a eu, de par le monde, beaucoup d'interactions très, très intéressantes avec la communauté qui vit d'elle-même, d'ailleurs, et qui continue même après le MOOC lui-même. MOOC ne signifie pas isolé. Je vous ai dit, il y a une communauté qui se crée, mais même, il y a des MOOC qui vous disent à un moment, suivez un MOOC, moi, sur la plateforme Coursera, et en tant que élève, apprenant, comme on dit, et à un moment, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte en disant, vous êtes 42 en région parisienne, si vous voulez vous retrouver au café de Flore samedi matin, l'exercice se fera à cet endroit-là, au boulevard Saint-Germain, n'hésitez pas à vous retrouver présentiellement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'à l'intérieur d'un MOOC, il y a une communauté d'EPC, par exemple, qui se retrouve présentiellement dans un endroit, dans un amphithéâtre de telle ville, et qui va travailler sur un exercice. Il y a beaucoup d'exercices, alors on peut utiliser les réseaux sociaux existants ou des réseaux sociaux embarqués à l'intérieur même du MOOC et qui confèrent un peu plus de confidentialité, on va dire, en tout cas pas de confidentialité, mais d'impression, je dirais, de communauté autour du cours. Ce que je dois dire, c'est que nous avons eu 12 000 participants à nos MOOC en santé publique en moins de 3 mois, et je n'ai pas eu, j'ai coordonné ces MOOC, je n'ai pas eu à censurer un seul message de la communauté des forums. Et comme le disait tout à l'heure Christophe Patier, n'importe qui peut s'inscrire, c'est ouvert. Vraiment, il pouvait y avoir des fous furieux, vous disiez, mais c'est impossible en pratique. On le voit bien que dans tous les blogs, vous voyez des messages parfois extrêmement inappropriés, désagréables, insultants, injurieux. On s'attendait à voir cela. N'en avons pas eu un seul. C'est étonnant, mais quand les gens s'inscrivent, font la démarche de s'inscrire et de suivre vos cours, de répondre aux questions, etc., ils peuvent être critiques, ils peuvent dire ça, là j'ai pas compris, là je suis pas d'accord, là il y a une erreur, ça auto-construit le cours, mais il n'y a pas eu de message approprié qu'on a eu envie de censurer parce qu'ils étaient désagréables. MOOC ne signifie pas seulement QCM. On dit souvent, ouais, les MOOC c'est quand même ultra simpliste, vous avez des QCM. Oui, il y a des QCM, on a mis des QCM. Après chaque séquence, vous savez, vous ne mettez pas une séquence vidéo qui fait une heure, c'est ultra pénible, ça ne doit pas durer plus de 5, 10, parfois 15 minutes maximum. D'ailleurs, ce serait trop lourd à décharger si vous n'avez pas une bande passante qui permet de le voir en temps réel et que vous voulez le décharger la nuit pour le revoir le lendemain. Il vaut mieux des petits grains. Alors, entre chaque grain, on met des QCM qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas bloquants, mais qui vous permettent de dire, là, vous avez peut-être été dérangé par un coup de téléphone au milieu de la séquence, parce que visiblement, vous n'avez pas bien, on vous invite à le relire. Mais c'est tout. Et en revanche, il n'y a pas que cela, il y a des travaux. On avait, par exemple, on demande de faire un document multimédia de promotion ou d'éducation à la santé, et ces documents sont en effet corrigés, je dirais, par les pairs, corrigés par les autres, parce qu'ils sont trop nombreux pour qu'un prof, à lui tout seul, les corrige tous. MOOC, c'est beaucoup de ressources, ça n'est pas que les enseignants. Les enseignants, c'est beaucoup de travail, c'est un énorme travail de l'enseignant. Alors nous, on a pris le parti pris d'avoir des MOOC mono-enseignants. Donc c'est un enseignant qui, pendant 6 semaines, va faire le cours, parce que ça nous paraît plus proche du modèle universitaire habituel que le modèle, on va dire, plus conférence, où vous avez 15 enseignants différents qui vont chacun faire un point de vue. Mais ça, c'est une façon tout à fait possible de faire aussi. Et de toute façon, c'est beaucoup de travail d'enseignant. Mais il y a aussi des parties prenantes qui peuvent être impliquées dans le MOOC. Évidemment, les universités, évidemment, les écoles. Et puis, il y a ce qui est derrière la plateforme, la partie informatique. Voilà. Alors, on a un comité scientifique international qui, je dirais, ne filtre pas, mais en tout cas qui donne son avis ou son conseil sur la qualité des MOOC qui sont proposés. Et la santé publique, comme je vous disais, ce n'est pas une discipline, c'est une série de disciplines qui essaient de se mettre ensemble pour résoudre des problèmes. Et donc, on n'a pas uniquement des professionnels de santé publique dans ce comité scientifique. Je vous remercie pour votre attention.
Merci pour votre exposé, vos exposés. La parole est à la salle.
Merci pour ces deux beaux exposés qui nous ont rappelé effectivement une thématique abordée l'année dernière, c'est sur ces fameux MOOCs. Une question pour Monsieur Flahou. Quand on regarde un petit peu la construction des MOOCs, on s'aperçoit qu'il y a trois, je dirais, problèmes. Celui de la fiabilité de la certification, celui de la reconnaissance de la certification et celui de la monétarisation de cette action. Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, justement, dans ces, comme système de sécurité, comme système de crédit, comme modèle économique ?
Alors, sur le plan de la certification ou de la diplomation, il y a aujourd'hui, on va dire, trois grandes possibilités. Trois options. Il y a une option qui est celle de Coursera, qui est entièrement digitale. Ils estiment que la façon dont vous tapez sur votre clavier est équivalent à une carte d'identité. Et que donc, on peut tout à fait savoir que c'est vous qui avez été du début à la fin participant sur le MOOC. Bon, EDX dit oui, mais on ne sait pas qui est derrière votre épaule. Peut-être qu'on vous souffle les choses. Et donc, EDX dit, nous, on n'est pas d'accord pour le tout digital. On fait la méthode, vous savez, américaine, si vous connaissez le TOEIC, le TOEFL, ce genre de... les SAT, enfin, tous ces examens se passent dans des salles, comme ici, où on vous dit, le 3 octobre, vous avez l'examen de votre MOOC. Et vous venez dans plein d'endroits du monde, il y a des gens qui savent organiser ça très bien, vous êtes derrière un ordinateur, mais vous avez votre carte d'identité, votre carte d'étudiant, éventuellement, etc. Ça, c'est la façon EDX. Et puis, nous, on a proposé une façon qui est de dire, on ne veut pas se substituer à l'université, c'était une des menaces, c'était que finalement, ces plateformes finissent par être les universités de demain. Non, les universités font leur job, et s'ils veulent dire à leurs étudiants... C'est un petit peu le modèle inversé. C'est-à-dire, si ils veulent dire à leurs étudiants, suivez le MOOC, et ensuite, nous, on vous fera passer l'examen. Alors nous, équipe pédagogique du MOOC, on est prêt à donner des sujets d'examen préformatés aux universités qui veulent faire cela. Je sais que l'Université de Genève, aujourd'hui, considère cela pour des étudiants en médecine. Mon MOOC sur le chikungunya, un autre sur le SRAS, où les étudiants auront un cours optionnel et ils auront des crédits. Nous, ça correspond à peu près à 3 crédits ECTS. Ils auront des crédits qui correspondront enfin, qu'ils pourront monétariser, je dirais, pour leur propre master. Le côté financier, le modèle économique, aujourd'hui, aux États-Unis, est en effet... Alors, il y a le modèle des badges, où vous pouvez, en effet, au moment de la certification, payer. En général, c'est gratuit. Et si vous voulez le certificat, vous payez 100, 150 $. C'est très inférieur au coût d'inscription des universités américaines. Donc, il y a des gens qui sont intéressés par cela. Et puis, moi, j'avais proposé quelque chose, mais qui est trop prématuré aujourd'hui, parce qu'il faut que ces plateformes se rôdent, et il ne faudrait pas qu'il y ait trop de bugs. Il n'y en a pas tellement, d'ailleurs. Mais on ne savait pas s'il y en aurait ou pas. Et la proposition que j'avais, c'était de dire payer 1 euro par cours. Vous avez 1 euro par cours. Vous avez un cours de 6 semaines, vous paierez 6 euros. Vous voyez, quand vous avez 100 000 personnes, ça fait très vite, ça peut très vite faire du financement, y compris pour les universités. Donc je disais, payons 1 euro par cours, et puis à la fin, vous aurez le diplôme universitaire, mais c'est l'université qui le délivrera en l'intégrant dans ses maîtrises, ou dans ses masters ou dans ses diplômes. Voilà. Donc c'est les différents modèles qui existent.
Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être? Non. Une autre question? Pendant que vous réfléchissez à des questions, je voudrais demander quelque chose. Dans le cadre du DPC en particulier, mais c'est quelque chose d'assez général en pédagogie, mais en tout cas dans les programmes de DPC, on nous demande très très clairement, et la HAS insiste beaucoup là-dessus, sur la définition des besoins et l'identification du public visé pour toute formation. Or, ça a l'air un tout petit peu antinomique avec le concept même de MOOC, qui est, par définition, comme vous l'avez dit, ouvert à tous. Alors comment est-ce que je peux m'assurer, dans le cadre du DPC, qu'en utilisant ce type de technique, j'ai bien ciblé un public donné et que j'ai bien identifié ses besoins ?
C'est l'auteur qui va le faire quand il va ouvrir un MOOC. Par exemple, j'ai parlé d'imagerie médicale. Il va donner un corpus de cours avec tout le contenu, les niveaux auxquels ça va s'adresser, de la deuxième à la quatrième année, je crois, en médecine. Il va donner des badges, c'est l'étape intermédiaire, et ça serait à vous, oui, qu'il y ait une commission de DPC, enfin, je sais pas bien, qui dise, ça, ce badge, on le reconnaît, celui-là, on le reconnaît pas, celui-là, il est intéressant, celui-là, il est pas intéressant, et vous pourriez avoir un comité qui dise, pour telle catégorie de médicale, il y a ce parcours de MOOC qui sont intéressants, ces badges-là qui sont intéressants. Comme vous avez, il y a un organisme qui fait l'habilitation des sites médicaux. On a un label maintenant sur certains sites médicaux où c'est audité par des médecins, il me semble. Je ne sais plus comment s'appelle ce label-là. Mais on peut avoir la même chose sur...
HOL.
Hein,
HOL.
Ouais, c'est ça. Excusez-moi. La même chose avec une labellisation des MOOC qui proposerait des parcours intéressants.
D'accord. Donc on peut faire du sur-mesure et du ciblé à l'intérieur du système largement ouvert. C'est ça, en identifiant des publics, c'est ça que vous voulez dire.
Ce qui va être difficile, c'est quelque chose d'assez dynamique, assez rapide. Un MOOC peut durer un an ou deux, puis après disparaître sur une thématique, sur une spécialité ou ces choses comme ça. On ne sait pas encore si ça va... C'est des MOOC sur 20 ans. Je ne sais pas s'il y aura peut-être qu'ils vont le faire, mais ça n'a pas l'air d'être le modèle. C'est quelque chose qui est là pour s'adapter, pour être optimisé. Un nouvel enseignement, c'est peut-être plus facile à mettre en MOOC que de le mettre dans les parcours. Ça va plus vite. Il y a aussi cette dynamique-là, cette idée-là, peut-être aussi.
Oui, moi je pense que c'est vraiment une question qui est clé, parce que ce n'est pas extrêmement simple d'imaginer qu'il va y avoir des professionnels déjà très rompus à un domaine qui vont se retrouver avec peut-être des personnes qui seront quand même très très éloignées de la problématique. Alors peut-être que ce n'est pas totalement adapté à tous les sujets d'abord, et puis peut-être aussi qu'on peut avoir une certaine confiance que quand des MOOC ont des sujets relativement pointus, il y a peu de gens qui vont perdre du temps s'ils ne sont pas du tout. Par exemple, les MOOC de statistiques dont je vous ai parlé, là, on est en train de faire avec un professeur américain qui est en sabbatique, qui est vraiment le pape de la régression logistique. Enfin, ce n'est pas du tout pour les débutants, quoi. Le cours va s'appeler Advanced Statistics. Et je pense que pour celui qui s'intéresse à ça, c'est vraiment intéressant. En plus, avec des exercices pratiques, avec une licence offerte à un logiciel statistique, etc. Mais en revanche, je crains pas tellement qu'il y ait beaucoup de parasitage par des enfants de CP.
Oui, c'est un peu ce que je voulais dire. Je pense que vous n'avez pas de sélection officielle. Vous êtes tout à fait ouvert, mais votre sélection, elle vient de l'annonce que vous faites du MOOC. À partir du moment où vous donnez un certain nombre de critères, ben vous sélectionnez. Et alors, quand vous avez une inscription, est-ce que vous le suivez forcément? Vous en avez probablement un certain pourcentage qui décroche.
Énorme pourcentage. En fait, on estime à peu près, je ne sais pas si vous avez la même expérience à Lyon, mais qu'il reste à peu près 15%. L'attrition est telle qu'il ne reste que 15% à la fin de gens qui ont véritablement suivi. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent parce qu'il y a de la lumière, si je puis dire. Rien ne vous empêche demain, tout à l'heure, de vous inscrire en ligne à tous les cours de Coursera ou de Fun, ou de Lyon sans doute, qui sont aujourd'hui disponibles. Vous pouvez partout, si vous avez envie. Et il y a des gens qui doivent faire ça. Il y a eu cette MOOC mania dont j'ai parlé. Et du coup, ceux qui restent vraiment, on les cible très, très, très bien. On les voit. Hein. Et je dirais même, c'est encore moins ceux qui sont participants aux réseaux sociaux. Et de façon générale, on sait que dans Twitter, il y a moins de 10% des gens qui sont inscrits sur le réseau qui sont véritablement des émetteurs de tweets.
Cet aspect m'amène aussi à une autre question, parce que c'est toujours dans le cadre des préoccupations que nous avons, nous, puisque c'est bien le sujet ici aujourd'hui du DPC, hein, des professionnels de santé, et les responsables de programmes de DPC sont supposés être responsables de l'évaluation des personnes qui ont participé à un programme, et c'est eux qui ont la responsabilité de dire oui, telle personne a bien effectivement suivi cet enseignement et l'a suivi jusqu'au bout et éventuellement avec succès lorsqu'il y a une forme d'évaluation plus ou moins chiffrée. Donc dans le cadre de l'enseignement à distance, quand il y a des QCM ou quand il y a une interaction, un type d'évaluation à la fin de l'enseignement, dans le e-learning, ça se fait couramment, il y a des tas de formations diplômantes, nous le savons très bien et nous en faisons nous-mêmes, en online. Et alors, quand c'est complètement ouvert, comment est-ce que vous procédez? Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais concrètement, est-ce qu'on peut dire oui, effectivement, tel professionnel a suivi avec suffisamment d'assiduité et suffisamment d'attention et d'acquisition de connaissances l'enseignement?
Peut-être qu'on peut donner nos deux expériences. La nôtre, c'est électroniquement, c'est simple. On peut vraiment savoir non pas quel professionnel, mais quelle adresse IP, excusez-moi de dire ça de façon technique, c'est-à-dire quel ordinateur a suivi du début à la fin le cours. Alors, on peut aussi savoir s'il a répondu au quiz, comment il a répondu. Et on peut aussi savoir s'il a fait, parce que nous, on faisait des exercices d'une semaine sur l'autre. Chaque semaine, il y avait un exercice à faire et à rendre. Donc, et cet exercice était corrigé, encore une fois, le plus souvent par les pairs. Hein. Et à chaque fois, on a pu, on pouvait, et puis à la fin, il y avait un examen final. Donc, on peut tout à fait, électroniquement, dire ceux qui ont suivi l'ensemble du processus. Et nous avons toujours délivré des certificats à ces ordinateurs. On n'a pas dit, on ne délivrait pas le certificat à l'ordinateur, on délivrait le certificat à la personne, mais il est vrai qu'il y a toujours ce petit doute de savoir si derrière, il y a vraiment la personne. Les gens, ça ne les gêne pas, je crois que ça gêne très peu de gens, et même les employeurs disent, mais de toute façon, c'est vrai pour les diplômes. C'est très difficile de savoir que le diplôme a vraiment été passé. Donc, vous savez, la fraude au diplôme existe, donc il peut y avoir de la fraude, les gens affichent une compétence qu'ils ont acquise, et le certificat le donne. Maintenant, encore une fois, l'université peut se permettre de vouloir faire passer un vrai examen pour avoir des ECTS s'ils estiment que ce certificat d'assiduité n'est pas suffisant. Je ne sais pas si vous avez la même expérience. Hein.
Je rajouterai une chose, c'est le MOOC que j'ai ouvert, moi, il y a eu moins de participants, il y a eu 2000 participants, c'est que sur l'e-learning, ça s'adressait essentiellement aux formateurs. Et on arrive facilement, déjà la plateforme donne les stats, les résultats, le suivi individuel, on a tout le détail par personne, mais on a la fiche profil qui est liée à la plateforme. Sur la fiche profil, on peut renseigner le Facebook, le LinkedIn, le Twitter, donc là on peut remonter sur pas mal de choses. Et les gens se regroupent dans des cafés, nous c'était le samedi matin ou le vendredi soir, à Rennes, et on voit apparaître sur Twitter des choses comme ça, donc on voit les gens, ils se mettent en photo, donc on arrive à les identifier, ils arrivent à parler entre eux. Quand on va à des congrès, moi je pose la question, alors pas ici, parce que c'est pas un congrès de pédago, mais sur des congrès de pédago, qui est inscrit à l'INAN 2 ? On voit 20-30 personnes qui lèvent la main, donc après à la pause café, on va papoter ensemble, donc ça permet aussi... Alors, c'est peut-être un cas à part, mais on connaît sa communauté, on peut être en contact avec la communauté, soit aussi un outil fabuleux, je ne sais pas si vous l'utilisez sur Fun, mais c'est les Hangouts, c'est la visio sur Google+. Donc on peut, nous, générer des Hangouts, donc des visios où les gens s'inscrivent et puis...
Un
petit groupe. Il y a 15 personnes sur la même visio, mais si on tweet l'URL de la visio, c'est en diffusant en même temps sur YouTube... moi, on a eu jusqu'à 150 personnes en simultané. Et eux-mêmes se font des hangouts entre eux, les apprenants. Et donc, on peut les voir discuter, argumenter. Et, enfin, dans certains MOOC, c'est l'argumentation qui est intéressante. Via Twitter, ça marche pas mal. On donne un hashtag, on fait des mots-clés, on peut les qualifier. Enfin, c'est un petit boulot. C'est là où l'animation de la communauté... il faut avoir des outils pour savoir animer sa communauté.
Bonjour, Université Paris Descartes. Je reviens un petit peu au modèle économique, puisque on a bien compris, il y a la partie MOOC qui peut être accessible très facilement, puis après il y a la transformation éventuellement, enfin la suite du parcours sur un DU. Je voulais savoir, est-ce que vous connaissez de manière globale, hein, peut-être en dehors de vos projets respectifs, la part en pourcentage pour que qu'on puisse se faire une idée du public qui va finalement finir sur un diplôme payant, par exemple un DU, comme vous parliez tout à l'heure pour lui.
Sur il en a carré, c'est 2000 inscrits au MOOC, c'est 30 qui payent. Voilà. Cette année. Et c'est 1500 euros, hein, c'est quand même assez cher.
Le prix d'un DU...
Voilà.
Oui. Et nous, pour l'instant, on n'a jamais fait payer encore. Hein, donc, encore une fois, on est dans une sorte de prototype dont l'ambition est de faire une sorte d'aérospatial, enfin de quelque chose, un consortium européen qui donc pour l'instant est très financé par le public, et enfin le secteur public, quoi. Mais à terme, il faudra qu'il y ait une certaine autonomie financière et sustainability, et ça, on peut espérer qu'on y arrivera par ce type de moyens, mais qui reste encore à démontrer, y compris même faire payer 1 euro par cours n'est pas quelque chose qui a été démontré faisable et tenable aujourd'hui.
Juste une remarque, moi j'ai été très sensible à votre attitude d'impliquer la formation initiale, d'impliquer les étudiants, parce que je pense que toutes ces techniques-là, elles marcheront bien si les jeunes s'approprient ce type de pédagogie.
Même les enseignants ont dit que c'est un vrai besoin parce que nos étudiants maintenant sont formatés comme ça. C'est-à-dire, tu parlais de petites vidéos courtes, de choses comme ça qu'on met sur YouTube en classe inversée. C'est un scénario, nous on a pas mal d'enseignants maintenant, dès la deuxième année de médecine, qui font ça. Pas mal de choses, la pédagogie en classe inversée, c'est quelque chose qui se généralise de plus en plus en médecine. Alors pas sur la PACES, mais après la PACES, c'est jusqu'à la sixième année, nos enseignants ont une vraie envie et une vraie volonté à Lyon de se lancer là-dedans.
Moi, je voudrais revenir là-dessus parce que j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui a dit « Oui, mais ça reste quand même très superficiel, etc. Ça ne remplace pas la pédagogie. » Franchement, ça dépend ce qu'on parle de pédagogie. Une pédagogie à 12 personnes, on ne peut pas la remplacer par un MOOC, en effet. Mais les Hangouts dont a parlé Christophe tout à l'heure, qui sont en fait des conférences virtuelles où il y a 150 personnes qui suivent, parfois même plus, le fait est, et puis il peut y avoir une dizaine d'orateurs qui vont faire une sorte de table ronde. Et bien, moi, je peux vous dire que j'en ai vécu l'expérience et c'est très supérieur en matière d'interaction que ce que l'on peut avoir dans une table ronde, y compris même comme ici, où il va y avoir ici 7 ou 8 interventions. Alors que quand vous avez des tweets, vous allez avoir des gens qui n'oseraient peut-être même pas parler et prendre la parole, mais qui vont facilement envoyer un commentaire, qui va être une question, qui va faire rebondir la table ronde. Et je trouve que ça ne remplace pas, je suis bien d'accord, mais je ne suis pas certain d'accepter l'idée que ce soit plus superficiel. Je pense qu'il y a des interactions qui se font, y compris entre les étudiants, voire même après le cours, qui ressemblent un petit peu quand même à ce que l'on peut avoir comme interaction dans la salle de café ou au moment de la pause déjeuner. Donc là-dessus, je pense qu'il ne faut pas être trop rapide pour dire que c'est complètement superficiel.
Ça scénarise aussi, parce que moi j'aime bien faire un hangout en fin d'une session. Pendant une semaine, on donne les notions, on donne les vidéos, des choses comme ça, et à la fin, on va cristalliser un peu tout ce qu'on a vu sous la forme d'un hangout. Et c'est vachement plus simple, le vendredi soir, moi j'aime bien, vers 8h, 9h, on invite des experts du domaine. Et si on doit les inviter physiquement, ça coûte un bras, il faut venir en train, c'est du temps, ça se fait pas. Et là, tout le monde fait chaud. Moi, je fais ça dans ma cuisine, qui font ça dans leur grenier. Et donc, c'est pas mal. Tout le monde et les étudiants sont toujours épatés d'avoir accès à l'expert du domaine qui répond à leurs questions. Et ça, ça prend une heure. C'est un exercice sympa à faire. À la fin de semaine, ça ouf, ça fait un peu de bien. Et c'est un vrai impact. Hein.
Juste, c'est vrai que je pense que ça peut avoir un intérêt dans le cognitif et dans le... Mais on n'améliore pas sur le plan pédagogique l'apprentissage par compétences, qui est quand même important en médecine. On reste toujours dans l'apprentissage, le maniement de connaissances. Donc c'est probablement un moyen intéressant. Je ne suis pas sûr que ça soit adapté dans tous les cas à notre pratique en médecine et au DPC.
Alors, adapté dans tous les cas, je ne pourrais pas prétendre que c'est adapté dans tous les cas. Mais en revanche, je contesterais aussi l'idée que ce n'est que de l'apprentissage de connaissances. Moi, je suis biostatisticien, donc dans mon domaine, je peux vous dire que quand vous mettez les étudiants derrière un logiciel et que vous leur faites faire une régression logistique en une semaine, enfin, pas une semaine, mais en cinq semaines, c'est-à-dire en cinq fois une semaine, à la fin des cinq semaines... Ils ne savaient rien, ils ne savaient pas faire ce modèle statistique sur des données. À la fin, ils savent le faire. C'est de la compétence, ce n'est pas de la connaissance. Ils savent le faire eux-mêmes. Et puis, par ailleurs, ce que l'on peut penser avec les simulateurs dont on a parlé tout à l'heure, avec la chirurgie sur robot, etc., on peut penser qu'il va y avoir des possibilités à terme d'apprendre à faire de la chirurgie, certes virtuellement, il faudra bien passer un moment à l'étape compétences réelles, mais à quelque chose qui se rapprochera de ce que font comme acquisition de compétences continue les pilotes de ligne au jour d'aujourd'hui sur des simulateurs de vol. Donc je pense qu'on peut le contester, hein, mais les technologies avancent et elles vont, à mon avis, être quand même au service d'acquisition de compétences ou de maintien de compétences que... Excusez-moi de vous le dire, moi je suis médecin comme vous et je pense que les médecins, on est par rapport aux pilotes de ligne très loin de remettre notre licence chaque année sur la table et qu'on peut se faire prendre parce qu'on n'a pas passé ces crédits de DPC de pilote de ligne, et c'est-à-dire ces crédits de simulateur de vol. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des chirurgiens qui opèrent, ils n'ont pas eu le moindre crédit de DPC depuis le début de la fin de leurs études. Donc entre ça et rien, je ne suis pas sûr...
Je réponds à la preuve des.
La simulation, là, je vois. C'est là,
vous avez Non, mais sur les compétences, je vais répondre. On travaille justement sur la posture de l'enseignant en classe sur un prochain MOOC qu'on va ouvrir. C'est un peu mon dada, les sciences de l'éduc. Et justement, est-ce que j'ai une bonne compétence oratoire? On a qualifié toutes les compétences en situation en salle de classe. Et comment on va suivre ça, les évolutions de ça? Eh bien, on demande à la personne qui va suivre ce MOOC de se filmer. Donc, il met son smartphone, il met sa tablette, il met son machin dans un coin dans sa classe. Il a juste sa posture, on va se filmer et mettre des séquences de 5-10 minutes sur YouTube et on va la faire évaluer par les pairs. Et donc, on va voir s'il y a une progression tout au cours du MOOC en tenant compte.
De l'enseignant.
Oui, mais ouais. Ça, on travaille sur. Les gens qui suivent le MOOC, c'est des enseignants. Et donc. Ben on peut faire la même chose avec les étudiants. En voile, ils vont se filmer en bateau. Est-ce que je mets bien mon wishbone? Est-ce que je fais bien mon bordage?
En relation, la relation médecin-malade ou je sais pas.
On peut... Sur une GoPro, ça coûte. On peut prêter des GoPro, ils peuvent en trouver. Ils en ont tous d'ailleurs. La mettre dans l'eau. Et, enfin, maintenant, c'est avoir la personne en situation, c'est pas compliqué.
Bon,
c'est
je crois
chose
qu'il faut,
qu'on peut faire assez simplement.
Je crois qu'il faut qu'on vous laisse, sur ces conclusions et cette ouverture sur l'avenir. Je dirais même concrètement que le sujet est tellement intéressant que je pense qu'il doit être poursuivi et que dans le cadre de nos réflexions sur le programme du colloque de l'année prochaine, il faut intégrer, à mon avis, cette dimension et peut-être répéter un peu l'exercice avec vous. Merci infiniment pour votre contribution. Nous vous félicitons.